L'école volante, l'émission de débat pas comme les autres, de Radio Piquet.
Émission du 16 juin 2017, c'est quoi la culture ?
En direct, Adèle.
Tu peux raconter ta vie, on l'adore.
L'école volante sur Radio Piquet.
Donc on reprend, c'est ça ?
Oui, on est reparti.
On est reparti, mais on est reparti, on a perdu la moitié de la classe. Et ça, c'est vraiment moche.
Ça, c'est le fait de faire ça dans un bistrot.
Oui, et puis c'est mon autorité naturelle qui s'exprime aussi. Allez là. C'est bien ça. Alors du coup...
On est toujours dans l'école volante 2.15.
Merci.
Sur la culture.
Sur la culture, au Café de la Plage.
Au Café de la Plage, avec, en direct, live.
En direct, avec Natacha, qui est pas très loin.
Oui, je sais pas si on l'aura.
Non, je pense qu'on l'aura pas. Est-ce que c'est pas gênant, le petit bruit de fond? Vous êtes dans un bistrot, vous avez l'habitude?
Oui.
Eh ben très bien. On lui dit de couper le retour.
Oui, il va falloir lui expliquer qu'avec le retour...
Alors, il lui explique, tout va bien, c'est les joies de la technique. Faites des signes à Natacha, comme ça elle ne comprend pas. Elle croit que vous voulez plus de bière.
Aussi.
Moins de bière. Allez, c'est bon.
Alors, je crois que c'est bon.
Ouais, elle a coupé la radio. Cool. C'est pas du tout bon signe, ça.
Voilà.
On reprend ?
On reprend.
Vous êtes un peu concentré ?
Très,
ouais.
Très.
Ouais.
Impeccable. Alors, c'est parti. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là pendant la première partie, où je faisais rapidement le sommaire de l'émission, la deuxième partie sera consacrée à une culture particulière qui serait la culture ouvrière. Et donc du coup, pourquoi cette question ? Ben, on est à Brest, et moi je suis pas d'ici. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit tu vas voir Brest. Bon, déjà Brest, c'est une ville cool, et c'est une ville accueillante, c'est une ville tout ça. Et on m'a très rapidement parlé de une ville de prolo, une ville avec une vraie culture ouvrière, due notamment à tout ce qui se passait autour du port, de l'arsenal. Sauf que, voilà, ça fait 8 ans que moi je suis à Brest, et la culture ouvrière de Brest, pour moi, c'est un peu du folklore, quoi. Pour moi, c'est un peu... Ça n'existe pas vraiment. En tout cas, elle n'est pas vraiment arrivée jusqu'à moi. Je ne vois pas en quoi elle peut façonner la ville de Brest, et je ne vois pas pourquoi... en tout cas à ce point, quand je suis arrivée ici, c'est presque la première chose qu'on m'ait dite, quoi. C'est une ville ouvrière. Du coup, on va...
Mais ça, c'est parce que t'es snob, tu traînes dans des milieux chics.
Madeleine.
Je croyais que t'étais de mon côté, toi. Ça va pas. Ah, putain, une balle dans le dos. Elle culpabilise très vite, Adèle, c'est facile. Du coup... Bah, du coup, on s'est dit qu'on allait, consacrer une partie à cette question de culture ouvrière, et notamment autour de la question du port de Brest. Et pour ça, le mieux, c'était quand même de... que ce soit pas moi qui en parle, hein, parce que voilà, parce que justement, je l'ai pas vraiment vu. Et du coup, on accueille... Enfin, ils étaient là depuis le début. Hein. Donc, y a Patrick et Philippe qui sont avec nous ce soir. Philippe, vous l'avez déjà entendu sur les ondes de Radio Piquet pour venir expliquer ce que c'était que pour lui le syndicalisme. Et puis, il y a Erwan qui interviendra aussi sur ces questions. Puis nous tous, si on a des questions, des remarques. Et oui, pardon. Et Patrick qui.
Surtout Patrick, parce
ouais,
que
ouais.
moi, je.
Ouais, ouais, ouais. Je, non, non, mais en plus.
Un écho. Je suis pas un ouvrier. Enfin, je suis pas un ouvrier.
En parlant de. En présentant Philippe, j'avais l'impression que je l'avais fait pour Patrick aussi. Je suis désolée.
Ouais, mais y a pas de problème. De toute façon, je comptais pas me opposer le débat non plus.
Ouais, c'est voilà, c'est ça. Et du coup, moi, j'avais quelques questions a priori. Peut-être qu'elles sont pas les bonnes, parce que comme je connais pas, peut-être que j'ai pris le. La question par le mauvais angle. Ma première question, c'est est-ce que, à votre avis, ça existe ici, la culture ouvrière? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire en gros ce que c'est, ce que ça veut dire pour vous?
Ouais, bon, je vais commencer si tu veux. Ouais, pour moi, la culture ouvrière, elle existe encore, ouais, c'est clair. Mais malheureusement, je pense que vous n'y avez plus accès. Enfin, je parle au niveau portuaire parce que c'est le milieu qu'on connaît, donc on va parler plus facilement de ça. Malheureusement, je crois que vous n'y avez plus accès parce que malheureusement, la culture ouvrière à Brest aujourd'hui, elle est enfermée derrière des barrières portuaires qui vous empêchent d'ailleurs de vous approcher des quais, des bateaux, de tout ce qui va avec, en fait. Et avant, le port, c'était, on va dire, il y a une dizaine d'années, donc d'après ce que j'ai compris, avant que tu arrives à Brest. C'était un lieu ouvert, c'était un lieu de vie, c'était un lieu où les gens travaillaient, hein. Les Brestois y travaillaient, les Brestois s'y promenaient, les Brestois y pêchaient à côté des activités industrielles. Donc tout ça s'était partagé, puis c'était partagé aussi dans les cafés du port, c'était partagé dans la vie au sens large sur le port. Il y a une dizaine d'années. A été fait le choix d'enfermer le port derrière des barrières. Et malheureusement, à partir de ce moment-là, je pense que la culture ouvrière est partie avec. Et je peux m'en expliquer assez rapidement pourquoi je le pense, pourquoi je dis ça. C'est assez simple à comprendre. C'est qu'à partir du moment où on a fermé le port, à partir du moment où les badauds ne venaient plus, qu'on ne voyait plus ce qui s'y passait, la vie ouvrière derrière a changé aussi avec, hein, également. Et aujourd'hui... il n'y a pas que les Brestois qui y travaillent, et il y a aussi toute une flopée de travailleurs étrangers, en fait, que j'ai rien personnellement contre eux, mais c'est vrai, hein, il y a toute une flopée des travailleurs étrangers qui sont là, qui sont bien plus nombreux que nous, et qui malheureusement fait que tout doucement cette culture ouvrière qui était transmise dans les Brestois, où on en parlait partout dans la ville, et ben aujourd'hui, comme il y a beaucoup moins de gens qui y travaillent, tout simplement, et ben c'est beaucoup moins partagé. Et moi, je dirais que la culture ouvrière, ouais, donc elle existe encore au port, pour la partie qu'on connaît, puis ça existe ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'elle ne transpire plus dans la ville. Elle ne transpire plus du tout. Et je pense qu'elle transpirera de moins en moins. Et malheureusement, on peut dire que ça, c'est con à dire, mais je pense que c'est un peu l'effet du libéralisme aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays a fait qu'on peut tellement ouvrir le travail. En fait, nos travails à nous sont ouverts à d'autres travailleurs aujourd'hui qui sont moins chers que nous, entre parenthèses, et surtout moins exigeants, entre parenthèses aussi. Et voilà, quoi. Donc le libéralisme est en train de tuer la culture ouvrière portuaire de chez nous, comme elle le tue sûrement ailleurs, comme dans le bâtiment, etc., partout, quoi. Et c'est un fait nouveau, ça n'existait pas. Je pense que la culture a toujours existé, enfin la culture du monde ouvrier et autres, hein, a toujours existé de tout le temps, parce que justement, comme on parlait en première partie, c'est de la transmission, c'est du savoir, c'est l'accompagnement, c'est plein de choses qui se créent. Et ben aujourd'hui c'est fini. On transmet plus parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est en concurrence avec des gens qui sont beaucoup moins chers que nous, et que etc. Donc oui, la culture, elle existe encore entre nous, mais je te rejoins, c'est vrai que pour toi qui arrives à Brest depuis 8 ans, que tu ne l'aies pas vu, que tu aies du mal à le remarquer, ça se comprend complètement, parce qu'ils l'ont enfermé derrière des barrières.
On parlait tout à l'heure à propos de culture du rôle de la transmission. C'est vrai que la transmission, c'est quand même quelque chose de capital dans la culture. Quand Patrick ou moi avons commencé à travailler à bord des bateaux, donc à l'époque c'était la Sobrena, la transmission se faisait avec un ancien. Il y avait tout le temps un ancien ouvrier ou compagnon avec qui on restait pendant un an ou un an et demi, et qui nous transmettait déjà le vocabulaire. ce qui est pas anodin, puisque je vous assure que quand on arrive pour la première fois à bord d'un bateau, le vocabulaire, il est... Donc il y a le vocabulaire maritime, mais il y a surtout le vocabulaire maritime ouvrier, avec, avec les jargons, enfin, c'est quelque chose de...
C'est ce qu'Adèle disait tout à l'heure. Hein.
Oui, tout à fait.
Une culture, c'est aussi une langue.
Oui, et là c'est une langue, bah, oui, à part. Donc on a tous les deux tout de même eu cette chance, on est arrivé vraiment à la fin du bal. Où est-ce que un ancien nous transmettait son savoir-faire et les gestes techniques et le vocabulaire et puis on n'était pas à l'abri au bout d'un an d'avoir de l'amitié avec cet ouvrier. Ça, c'était quand même quelque chose de fantastique. Et là, on avait une vraie culture ouvrière. Maintenant, effectivement, avec les travailleurs détachés. Hein, le mot un peu prude pour expliquer que ben voilà les
le dumping social
ouais, tout à fait.
Cette
transmission là elle est morte, elle est vraiment elle a été sabordée mais volontairement, puisque c'est toujours plus intéressant pour un patronat de dire bah, écoutez, moi j'aimerais bien employer des gens du bassin brestois, mais ils savent pas faire. Ah oui, ils ne savent pas faire, parce que le savoir-faire, ils l'ont sabordé en annihilant justement cette transmission. Parce qu'il n'y a pas de CAP de réparation navale. On peut être mécanicien, on peut être taulier, il y a plein de corps de métier, tuyauteur. Mais la navale a quand même une spécificité qui est vraiment qu'on ne peut acquérir que par la transmission. Donc ça a été sabordé. Alors, comme Patrick le soulignait à l'instant, c'est vrai que nous, cette culture, on l'a encore entre nous. Mais on sait pertinemment que nous sommes les derniers des Mohicans. Je vois pas comment dans ce monde néolibéral et ultra-libéral on puisse revivre cette culture de transmission et d'échange et d'amitié. Et effectivement, il y avait en plus avec des jeunes qui... Parce que bon, nous, vis-à-vis des anciens, on a peut-être eu un peu plus de... On nous a dit, va à l'école. Hein, ton père est ouvrier et toi, tu ne seras pas ouvrier.
Depuis que le port est fermé, barricadé, est-ce que leur situation s'est dégradée? Est-ce que leur présence s'est amplifiée? Est-ce que c'est aussi un moyen pour les Brestois de ne pas voir ce qui se passe sous leur nez, quoi?
Oui, parce que effectivement, si tout cela se faisait à la vue de tout le monde, ça serait choquant. C'est déjà choquant pour nous. De voir, on les voit bien, les pauvres Polonais, les pauvres Roumains, les pauvres Ukrainiens, qui sont détachés ici, ils viennent pas de leur plein gré tous, c'est pas vrai. Je parle de la navale, hein. Y a des cas où est-ce qu'on sait que la mafia, justement, ces gars-là en Ukraine, par exemple, notamment, on a eu le cas, hein, on a eu le cas en Forme 3. Reversaient 20 à 30% de leur salaire à la mafia. Et la mafia leur disait, de toute façon, c'est comme ça, on sait où tu habites, on sait où sont tes enfants. Donc effectivement, l'intérêt pour ne pas voir ça, et il faut que ça se passe, ça se passe en secret, quoi, plus ou moins, ou que le moins de gens possible le voient.
Ouais, je confirme. Jusqu'à même des appels à l'aide de certains de ces travailleurs détachés.
Auprès de vous ?
Non, auprès des autorités, auprès de la police. Hein.
Auprès de la police. Oui.
Attention, et nous en est pas. Ou aller en Pologne, aller protéger ma femme et mes enfants. Voilà les paroles qu'on peut entendre sur les quais des fois. Quoi.
Ah ouais, je me permets juste d'intervenir. Ok, sûrement ça existe. C'est intéressant, mais on va pas
dire intéressant, ouais.
les gens quand ils viennent de Roumanie, qui viennent de Pologne ou je sais pas quoi, quand ils viennent bosser en France, normalement ils gagnent plus que ce qu'ils gagnent quand ils sont au pays, quoi, de façon générale. Après ça, mis à part, et je suis d'accord avec toi, mais le salaire moyen en Roumanie c'est 320 euros, je crois.
Oui, alors je pense pas que
ils sont quand même à un salaire français.
Je ne pense pas honnêtement que d'être loin de sa famille, ouais, mais... d'être exploité, parce que là, attention, ils sont forfaitisés, mais ils sont simplement corvéables à merci et ils n'ont même pas leur mot à dire. Je ne pense pas que ce soit un luxe. Je pense qu'ils sont vraiment pris dans l'étau néolibéralisme. Honnêtement. Hein.
Attends, il faut juste qu'on ait la vérité, en fait. Juste deux secondes, c'est Pour ces gens que tu dis qu'ils sont payés, c'est vrai qu'ils, bien sûr qu'ils touchent mieux que chez eux. Hein. Heureusement, parce qu'ils font encore l'effort de partir de chez eux. Mais c'est pas suffisant. Mais ces gens ne touchent pas le SMIG. La France paye le SMIG, mais c'est pas eux qui le touchent. Hein. La France paye le SMIG à leur employeur. Et ce SMIG est dispatché entre les charges et tout ça. Donc en fait, il ne leur reste pas grand-chose au final quand ils rentrent chez eux. Tout ça, c'est un peu une fausse idée qu'on s'en fait. Quoi. C'est ce que les politiques et les industriels nous disent. Ils ont le minimum. Mais non, ils n'ont pas le minimum. C'est leur employeur qui a le minimum. Et tout est dispatché derrière.
Erwan, tu voulais...
Ouais, enfin, juste par rapport à la question des travailleurs détachés, parce que c'est une question assez importante. Donc, on parle au départ de culture commune, et moi je voulais culture ouvrière. Moi je dirais plutôt culture de classe. C'est ça qui a existé pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il y avait des grandes unités de production en France, etc., y compris sur le port, l'Arsenal qui a fermé depuis dans les années 2000. Ils étaient, je ne sais pas combien, à bosser l'Arsenal.
C'était énorme.
C'était quand on voit le plateau des Capucins qui a été transformé en médiathèque en partie.
3500,
c'était,
je crois.
Combien? 2500 sur le plateau, qui a fermé dans les années 2000. Quand il y a des grandes unités de production comme ça, un rassemblement humain qui parle la même langue...
C'est dangereux.
Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Ils appelaient les classes laborieuses avant, oui, les classes dangereuses. Oui, voilà. Oui, oui. Et donc c'est dangereux, et c'est dangereux parce que ça crée une culture révolutionnaire. Enfin voilà.
Oui, oui.
Et parce que justement il y a de l'échange, il y a des possibilités de remettre en cause la domination patronale, la domination capitaliste. Le fait que depuis un moment il y a le libéralisme, etc., il y a surtout une désindustrialisation, parce que à Brest on pourrait encore construire, enfin comme vous le disiez tout à l'heure, avec des formations qui permettent réparation navale, etc., des CAP qui pourraient être mises en œuvre. On pourrait recréer une industrie à Brest qui soit respectueuse de l'environnement et qui continue aussi à créer de l'emploi dans de bonnes conditions, à créer de la richesse qui remette ce point de vue capitaliste qui est la décision de désindustrialiser pour faire de la finance et pour gagner de l'argent le plus rapidement possible et à court terme. Et ce qui m'intéressait dans ce que vous disiez, c'était ce qu'on parle de la culture au départ. Avec les travailleurs détachés, quand ils sont ukrainiens, quand ils sont polonais, il n'y a pas de langue commune. Ouais. Et c'est ça, le problème essentiel, il est là, en fait, c'est que la transmission dans les grandes unités de production, quand on disait Boulogne-Billancourt, Renault, etc., il y avait c'était Jean-François Kahn, l'ancien directeur de l'événement du jeudi, mais non, je ne sais plus comment. Enfin bon, bref, peu importe, il disait, lui, il était quand il était dans les usines comme ça, il a commencé comme ça, c'était un ouvrier qui lui avait parlé de la musique baroque. Et cette transmission culturelle, enfin, la culture ouvrière, elle a été aussi un vecteur de transmission de culture comment on pourrait l'appeler, culture savante, de très haut niveau. Mmh. Et c'est ça la force de cette culture ouvrière.
Et émancipatrice.
Émancipatrice, bien sûr. Et c'est ça qui a été mise en échec par les développements du capitalisme sur les dernières décennies, qui sont essentiellement des désindustrialisations et qui permettent plus une culture commune. Et effectivement, maintenant, il faut peut-être créer une culture commune européenne, puisqu'il n'y a pas trop d'autres solutions, et en donnant des droits à un SMIC global européen qui permette plus de faire du dumping social.
Des droits nouveaux pour tout le monde,
voilà,
qui soient égales.
Ouais, c'est comme ça qu'on va s'en sortir.
Et du coup, moi, j'ai une question par rapport... On peut citer votre entreprise. Je pense que c'est...
Moi, ça ne pose aucun problème.
Ouais, ouais, moi non plus.
C'est assez clair. De toute façon, quand on parle des formes de Radoub à Brest, on l'a déjà cité. Aujourd'hui, vous travaillez pour l'entreprise Damen. J'espère que je ne dis pas de conneries. Le conflit avec la Sobrena, qui était l'ancienne entreprise, c'était 2011-2012. Mmh.
2011-2012.
À cheval sur les deux.
Et... En 2012, ce processus de fin de transmission de la culture ouvrière, il était déjà entamé. Ouais. Et malgré tout, quand vous avez des revendications à faire valoir et quand d'un seul coup vous décidez que vous allez occuper la place de la liberté pour rendre visible votre combat, vous obtenez des soutiens enfin, des Brestois.
Ouais, tout à fait.
Ah oui, il y a eu
23 000 signatures acquises uniquement sur la place Liberté.
Et des gens qui sont là et qui viennent.
Les gens qui ont fait uniquement le déplacement, parce qu'on les a toutes fait signer sur la place Liberté. Pas une seule à domicile ou dans d'autres lieux. Les gens sont venus nous voir pour soutenir. Ouais.
Ouais. Du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, 2012, c'est il n'y a pas si longtemps. À ce moment-là, il y a encore quelque chose que les Brestois portent en eux, quoi, comme une mémoire historique, comme une mémoire de la ville, où ils répondent présents à votre combat. Est-ce que vous pensez que... Je ne vous le souhaite pas. Est-ce que vous pensez que si demain ou après-demain, il se passait la même chose, est-ce que vous pensez que la population serait toujours au rendez-vous, que les gens se mobiliseraient quand même? Est-ce que là-dessus, vous êtes assez confiant sur, je sais pas moi, sur cette mémoire que les Brestois portent
Disons que... C'est difficile de lire dans le marc de café, mais historiquement, il y a quand même 900 familles qui... Enfin, 900 bonhommes qui travaillaient à l'époque aux AFO sur un seul bassin. Donc beaucoup de familles brestoises... Dans leurs souvenirs, ont un grand-père, un arrière-grand-père, ou même leur père, comme c'est mon cas et le cas de Patrick, qui y ont travaillé. Donc, y a pas mal d'histoires et d'anecdotes et de. Il y a un vrai patrimoine, quand même, pour pas mal de familles brestoises qui concernent la réparation navale. Bon, maintenant, effectivement, le fait que le port soit fermé et que on est de moins en moins, hein, de 900 qu'ils étaient, vous avez faux. Là, actuellement, on est en train de nous laisser mourir à petit feu, parce que depuis que Damen a repris l'entreprise, chaque départ en retraite n'a jamais été renouvelé. Il n'y a strictement aucune embauche, si ce n'est que pour des métiers, on va dire, bureaucratiques comme la qualité ou... Enfin, des gens qui eux ne montent pas à bord des bateaux, donc il y a enfin moins ouvriers si je peux me permettre. Donc on est de moins en moins, donc étant de moins en moins, et je pense que là on est 170, quelque chose comme ça.
Ça.
Ouais. Et l'année prochaine on sera 140, et l'année d'après on sera 100, et dans 4 ans on sera une quarantaine, quoi. Donc non, on est en train de mourir à petit feu, ça c'est clair, et c'est une volonté.
Délibéré,
oui. Ouais. Puisque Damen officiellement sous-traite avec deux entreprises pour ce qui est le carénage et puis tout ce qui est échafaudage et logistique. Et nous savons pertinemment que ces entreprises, bien qu'elles n'aient pas le même nom que Damen, leur appartiennent. C'est un secret de polichinelle, ce sont les vases communicants. C'est la pieuvre capitaliste.
Après, je peux compléter par rapport à ta question. Là. C'est ta question, elle est super intéressante en fait, parce que. Moi, je pense qu'on pourrait de retour obtenir, par exemple, les 23 000 signatures. Je pense qu'elles sont accessibles encore de retour. Pourquoi là, en fait, la question, c'est pourquoi on les a eues en 2012, ces 23 000 signatures. C'est surtout ça en fait qu'il faut se poser comme question, parce que mine de rien, parce qu'on a été un peu les chercher aussi. Hein. Tu as commencé l'émission en parlant donc du souvenir que tu retrouvais pas la culture ouvrière dans Brest parce qu'elle était enfermée. On en a débattu pendant toute l'émission. Donc nous en 2000, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'entreprise a fermé en fait. On s'est dit nous on est bien enfermés derrière nos grilles, plus personne s'intéresse à nous, plus personne nous voit. Alors, ce qui était intéressant à faire, en fait, était de faire une démonstration. Et c'est ce qu'on a fait, en fait, pendant les 8 mois où on est parti donc construire les trèves de navires sur le parvis de l'hôtel de ville, en fait. Et ben, c'était ça. C'était les Brestois ont vu des gens sous des décoques. Hein. Les Brestois ont vu des moteurs de bateaux s'allumer. Les Brestois ont vu du sablage sur la place de Liberté, comme de la peinture, comme des machins. On essaie de resensibiliser, en fait, au souvenir. Le souvenir qui est en train de disparaître tout doucement dans le temps, quoi. Et je pense que c'est ça qui a fait rattacher ce souvenir au Brestois. Et comme il disait Philippe, on a tous des grands-pères, des oncles, des tantes, des frères, des cousins dans la ville de Brest qui ont travaillé sur les ports. Et je pense qu'on a su réveiller cet attachement, en fait.
Vous avez remis en scène la transmission, en fait.
Voilà, ouais.
Oui.
C'est bah, c'est une façon de transmettre de la culture.
Ouais. En fait. Ouais. Et une vraie fierté.
Ouais. Et aujourd'hui, ouais, je pense que si ça devait refaire aujourd'hui, par le même biais, par le même moyen, on y arrivera encore, je pense. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a encore cet attachement. La preuve, on fait une émission ce soir. Sur...
Ouais.
Donc il y a encore un attachement encore à Brest dessus. Ouais. Je pense qu'on peut y arriver encore, ouais, tout à fait. Ouais. Et on est en mesure et en moyen de le faire. On sait le faire, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais.
André, tu voulais poser une question ?
Pas seulement poser une question, faire un certain nombre de commentaires. Sur la culture ouvrière, par rapport à ta question de départ, est-ce que ça existe à Brest ? Moi, je ne suis pas brestois, pourquoi ? Je suis sensibilisé à ça. Par rapport à d'autres villes que j'ai connues, ce qui m'a frappé quand même à Brest, c'est que la culture ouvrière, au sens le plus élémentaire, des gens qui ont des parents, qui ont bossé, enfin, voilà, qui résonnent comme des ouvriers, qui parlent de leur boulot, on m'entend mal,
hein, qui parlent de leur boulot, ça, on le perçoit très facilement à Brest où qu'on aille. C'est-à-dire que c'est une ville, il y a des villes bourgeoises où tu as. Brest, c'est pas une ville bourgeoise. Il y a des côtés militaires et tout ce qu'on veut, mais où qu'on aille, ben, on rencontre des gens, essentiellement de quoi ils vivent, de leur boulot, ils sont salariés. Et c'est, bon, alors, c'est pas forcément des gens qui ont été combattants ou qui se réclament de la culture ouvrière. Mais enfin, en tout cas, c'est sensible moi, par rapport à d'autres villes que j'ai connues. Si vous allez à Brest, si vous allez à où les gens, ils. On a l'impression dans des salons où qu'on aille, à Brest, bah ça, on le sent assez facilement. Il y a d'autres villes comme ça que je connais, Saint-Nazaire, enfin d'autres.
Cherbourg.
Cherbourg, enfin qui sont marqués parce qu'il y a eu une forte présence industrielle dans les métiers divers. Alors ici, c'est la construction navale. Bon, donc ce côté-là de la culture très élémentaire, même si ce n'est pas explicite, etc., c'est des choses qu'on perçoit pour peu qu'on regarde. Alors, je voudrais dire autre chose, moi aussi, sur le fait que c'est en train de disparaître parce que le libéralisme a fait que, hein, et puis qu'il y a de la concurrence des travailleurs étrangers, depuis que le mouvement ouvrier existe, depuis qu'il y a des ouvriers, et ils sont dans des tas de métiers, et ben ils se sont heurtés à ça, on les met en concurrence les uns avec les autres. Le mouvement ouvrier, la première internationale, elle est née à l'échelle internationale, et un des problèmes qu'elle a eu à résoudre, c'est le problème entre les travailleurs allemands et à propos de la guerre, qui est autrement plus grave. Donc c'est pour ça. Faut pas, enfin, il ne s'agit pas d'avoir la nostalgie de l'époque où les patrons, en quelque sorte, toléraient les libertés qu'on avait pu conquérir. Pour, et puis on en a nostalgie, c'était très bien. Et puis ils se sont servis d'autres qui peuvent payer moins et qui nous foutent dans les pattes pour nous faire concurrence. Le problème, c'est comment résoudre ça, et pour ça, ben, il faut que dans la culture ouvrière, c'est-à-dire dans la culture des militants, des gens qui transmettent, eh ben, on sache aborder ce problème, ou pas simplement déplorer. Et moi, ce qui me choque dans beaucoup de l'histoire des travailleurs détachés, c'est passer dans le vocabulaire courant, y compris des gens qui n'ont rien à voir avec le mouvement
c'est
ouvrier,
propre, c'est propre.
Qui n'ont rien à voir avec le mouvement ouvrier, et qui vont s'en servir pour faire un coin entre nous. Alors, il y a un coin du fait de la concurrence, ça je... Moi, je ne vis pas, vous vivez. C'est vrai, moi, je connais des copains qui militent à Saint-Nazaire, au chantier d'Atlantique. Eh bien, en tout cas, du côté du mouvement ouvrier, pour peu qu'ils soient en mesure de l'animer, d'y jouer un rôle, eh bien, ils se débrouillent pour s'adresser, y compris aux travailleurs étrangers, dans des diverses langues, y compris en faisant appel à des traducteurs, etc. Alors, ça ne change pas le fond des choses, mais ça donne la volonté de surmonter tout ce que les patrons voudraient nous dresser les uns contre les autres. Parce qu'on s'ignore, c'est vrai, on ne parle pas la même langue. Enfin, donc, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un de nos problèmes, mais je crois qu'il faut... Enfin, quand je dis nos, parce que je me sens du mouvement ouvrier, et il faut qu'on le traite comme nos problèmes, et pas simplement déplorer les salopards, regarder comment on nous traite, et avec la nostalgie, c'était mieux avant. Parce que si le mouvement ouvrier avait raisonné comme ça, eh ben il serait resté un bétail docile en étant bien content qu'en gros les maîtres, les bergers nous traitent bien par rapport à des périodes où ils nous traitent mal, et puis voilà, on est un peu dans la déploration, alors qu'il y a un enjeu en quelque sorte à l'avenir. Et ceci dit, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur ce que peut être l'avenir, oui, ça reviendra. Enfin, c'est vrai que les gens, il faut aller chercher, se faire comprendre. Mais il y a partout des gens qui ne sont pas forcément dans le port ou ailleurs, mais ils vivent la même situation. Et bon, alors, on prendra des coups sur la gueule, mais Bon, je termine. Excusez-moi.
Juste, camarade, pour rebondir, quand tu parles de concurrence, je ne suis pas d'accord. Moi, je parle d'exploitation. On n'est pas mis en concurrence avec ces gens-là, au contraire. C'est, non, mais ce n'est pas de la concurrence. La concurrence, c'est leur discours. C'est leur discours. Et on a de cesse de l'entendre tous les jours. C'est de l'exploitation.
Le truc, c'est aujourd'hui, il faut savoir, faut aussi comprendre un truc, c'est qu'on n'est pas du tout contre ces sauveurs-là.
Ouais, mais c'est assez.
J'irai même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, sans eux, le travail n'est plus possible.
Non.
Dans nos chantiers, il faut être clair aussi.
Hein. Ah oui, c'est clair.
Demain, on ne ferme pas la porte. Hein. Sinon, nos boîtes, elles crèvent, ça, c'est sûr et certain. Ouais. On va revenir un peu en arrière, sans se représenter, tu vois. Enfin, moi, je suis syndicaliste dans la métallurgie. Et si tu ramènes la métallurgie, rien que CGT, il y a 20 ans de ça, c'était 3000 syndiqués à Brest. Aujourd'hui, il en reste combien? 300, 400. C'est-à-dire qu'ils sont où, les travailleurs? Ah, c'est pas qu'ils sont plus syndiqués, c'est qu'il y en a
plus
beaucoup, 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 beaucoup
ouais.
moins.
Ouais, il y en a plus.
Et aujourd'hui,
il y en a plus.
C'est le patronat, aujourd'hui, a tellement déstructuré qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans eux. On n'a strictement rien contre eux. Aujourd'hui, ce sont des camarades de travail exploités.
Mais ça, je pense que...
Exploités, ouais, c'est le maître mot. Hein.
Je pense que c'est assez clair que votre propos, il n'était pas du tout contre eux. Il est contre le système.
Ouais. Mmh. Capitaliste, néolibéraliste.
Système capitaliste.
C'est ceci.
Il vient de le dire, ouais, contre le système capitaliste.
Et c'est ce système qui tue la culture ouvrière aujourd'hui. Je franchement, enfin, du moins dans notre secteur d'activité, ça, c'est sûr et certain.
Ça sera peut-être les alliés, les travailleurs.
Mais prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est pas un scoop. Hein.
Il y a encore la place pour une internationale.
Ouais. Oui, bah oui.
C'est pas une nécessité.
Mais le système capitaliste a tout intérêt en fait à détruire cette culture ouvrière. Parce que comme tu disais, Arwan, si ça crée de la force, si ça crée,
de la puissance,
l'émancipation, voilà.
Ça les met en danger.
Mais... Exactement. Et en fait, c'est le système d'une pyramide. Plus tu vas vers le haut, moins il y a de monde. Et du coup, si jamais il y avait la base de la pyramide qui se disait, bah non, en fait là on se fait exploiter, ça fait chier. Pourquoi toi t'es tout en haut? Le mec tout en haut il serait mal. Du coup, y a tout intérêt à toujours faire en sorte que la base de la pyramide ne puisse pas se soulever.
Mais c'est parce que si, en gros, quoi, s'il n'y a pas de langage commun, il n'y a pas d'organisation possible.
Exactement.
Ouais,
c'est exactement ça, le truc. Ouais.
Et du coup, on en revient au début, et c'est bien parce que ça fera. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter en plus, mais. La nécessité, c'est de trouver des moyens de transmettre à notre manière. Comment on fait de la pédagogie autour de ça, quoi.
Bon. Adèle, toi, tu apprends le breton. Je crois que je vais me mettre au hollandais.
Ouais. Alors, ouais, vas-y.
Bah non, mais c'est vrai, c'est déjà... Parce qu'en fait, ce que je trouve génial, c'est que vous ne tombez pas dans le piège, justement, de la division, de se dire, bah ouais, c'est de leur faute à eux, nanana, ils nous piquent nos travails, machin. Moi, je trouve que c'est génial qu'en fait, il y ait quand même, en fait, cette culture, je pense, pour moi, elle est toujours là, en fait. Il y a toujours ce côté, non, arrêtez de nous prendre pour des cons, et j'aime bien. Et en effet, peut-être ça pourrait aider qu'on puisse au moins déjà parler la même langue sur les chantiers.
Et juste pour la transmission de la culture ouvrière, il y a un film, je sais pas si Philippe et Patrick l'ont vu, mais qui s'appelle Omaï au sens au boulot, quoi, dans le terme, justement, la langue inventée par les ouvriers aussi, de Marie Elia, qui est sorti cette année, en 2015, ou 2016 peut-être, et qui revient sur l'histoire de l'Arsenal en 35 minutes.
Ouais.
Et c'est à partir de travaux d'une ethnosociologue qui avait fait un travail sur la culture ouvrière de l'Arsenal et qui, à partir de ces témoignages d'ouvriers de différentes générations, a reconstitué un film de 35 minutes avec des images de l'Arsenal sur l'histoire de l'Arsenal. Et effectivement, dans ce film-là, c'est assez marrant parce qu'il y a un regard aussi avec les jeunes qui sont au lycée technique Vauban sur les métiers de métallo. et qui eux disent ah non moi je m'inquiète pas pour mon métier, je vais en trouver, et mais j'irai à l'international justement. Eux ils vont partir sur les bateaux, etc. Enfin, et ils se soucient pas, et quand on leur pose la question de la culture ouvrière, de la culture de masse, ils semblent pas peu intéressés par ça. Et j'espère qu'ils ont vu le film, parce que justement après c'est ça, c'est de recréer du lien pour qu'eux se retrouvent pas tout seuls sur un bateau à se faire exploiter comme les autres. Parce que c'est la culture ouvrière telle que vous l'avez définie, vous, c'était essentiellement, moi, c'est une culture de classe qui permet, c'est une culture de combat social, et en même temps, comme on l'a vu, qui permet de se transmettre des choses, y compris de la culture bourgeoise, en la dépassant. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment la transmission de savoir à la culture ouvrière. Ouais. Et on a tous commencé comme ça, par rapport à ce qu'ils avaient filé, tu vois. Bon, déjà, il faut savoir, il n'y a pas d'école de nos métiers à nous, il n'y en a pas. Hein. Ouais. On forme à la mécanique, on forme à la soudure, mais on forme à plein de choses. Mais il n'y a pas d'école à proprement dite des métiers de la mer en France. Et
collectif.
Ouais, on travaille dessus en ce moment, mais bon, ça c'est un autre projet. Mm. Mais il y a tout ça, ouais, t'as raison. Il faut absolument que les jeunes comprennent que quand tu dis ces jeunes qui vont partir embarquer peut-être, oui, ils sont à 4000 lieues de savoir ce qui va leur arriver, quoi.
Mais ils sont sûrs de trouver du boulot. Et un peu ils s'en foutent. Mais en gros, ils jouent la carte individuelle. Mais le problème, c'est que
sous quelles conditions ils vont travailler aujourd'hui à bord d'un bateau. Il faut savoir comment ça se passe, quoi. Les gens à bord ne se comprennent pas non plus. Il faut savoir, aujourd'hui, dans un navire de commerce, il y a 4-5 langues différentes. Hein. Ce n'est pas une ou deux, c'est 4 ou 5 langues différentes. Il y a autant de langues différentes qu'il y a d'étages, pour éviter que les gens se comprennent et s'organisent entre eux. Le premier système libéral du monde, c'est le maritime, voire peut-être après l'esclavagisme, sans déconner. Mais ça a été inventé là.
Et ça a été inventé aussi avec le capitalisme financier des Hollandais, puisqu'ils étaient les rouliers du...
Ils sont à la base, ils savent y faire, ouais, c'est clair.
Ouais. Ouais, tout à fait. Mais je confirme, aujourd'hui on a échoué un gros bateau qui s'appelle MSC Luciana, hein, un énorme porte-conteneur, hein, qui est actuellement échoué en forme 3 pour une avarie d'étanchéité de ligne d'armes. Donc c'est pas un gros arrêt technique pour nous, hein, mais bon, quand même, bon, ça fait un bateau dans le port de Brest, ça fait bien pour nos directeurs, hein. Ils disent, vous voyez, on a des bateaux, c'est beau.
Il en a bien parlé dans l'Ouest France.
Oui, bah ça ils savent communiquer, enfin ils communiquent ce qu'ils veulent. Oui. Et ben, à bord du bateau, donc là le commandant venait du Monténégro, le chef était croate, le Bosco était ukrainien. Et en machine, je pense qu'on devait avoir du serbe. Et le pont, par contre, là, c'est toujours pareil, c'est les Philippins. Ça change jamais. Ça, eux, ils sont partout. C'est les mêmes, les tâcherons, les esclaves.
C'est eux qui font le travail de merde.
Qui font la merde, ouais. Ouais.
Et ça confirme ce que je dis. À chaque étage, à chaque niveau de qualification, un pays et une langue différente. Ouais. Et c'est comme ça sur tous les navires aujourd'hui.
Tous.
Donc, dans les navires, il n'y a plus de transmission de savoir, il n'y a plus de culture maritime non plus.
Y compris les navires français depuis le fameux pavillon. Ouais. On n'a que les officiers français. Et puis, ouais.
C'est peut-être ce côté-là qui leur reviendra dans la gueule un jour ou l'autre.
J'espère.
Il va bien falloir s'organiser à un moment, en fait, parce que l'exploitation, elle est toujours là, et puis on s'est bien organisé à un moment. Donc avant c'était par pays, par état-nation. Bon, l'état-nation, c'est clair que ceux qui nous niquent nos vies, ils en ont pas grand-chose à secouer, quoi, des frontières et tout. Ce qu'ils veulent, c'est asservir n'importe qui, n'importe quand, bon, pour le profit. Mais c'est voilà, il va bien falloir s'organiser et trouver quelque chose, mais on va trouver, parce que c'est automatique, on cherche à se défendre, quoi. C'est sûr que sans parler la même langue, c'est compliqué, mais en même temps... défendre ses intérêts, c'est pas grand chose. C'est par exemple, t'es pas assez payé, tu veux plus. On s'arrête et on continue. Après, le truc, c'est qu'avant d'en arriver là, il faut savoir se parler, se connaître, en fait, quoi. Et ça, c'est compliqué. Mais il y a aussi un truc assez humain, quoi, où on arrive à se connaître sans parler la même langue. Alors, c'est sûr, on n'arrive pas à se connaître vite, bien, tout ce qu'il faudrait pour se créer une conscience commune, quoi. Et en faire quelque chose. Mais en même temps, il y a un truc universel où on arrive à se connaître quelle que soit la langue. Donc il y a quand même un espoir de s'organiser. Bon.
Ouais, bah moi,
faut trouver, quoi. Mais du coup, si nos ennemis sont organisés comme ça, soit il faut déserter le truc, soit on va trouver une solution de le faire, parce que c'est, on n'a que ça à faire, de toute façon.
On ne désertera jamais le truc. On va trouver la solution, ça, c'est sûr. Ça.
Eh, si vous
faut
voulez...
pas oublier que putain, ces activités portuaires, parce qu'on en parle des activités portuaires, mais ces activités portuaires sont à nous, quoi. Ça appartient aux Brestois, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on, pourquoi on rétrocède ? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on devrait automatiquement rétrocéder tout ça parce qu'ils sont plus forts que nous ? Il n'y a pas de raison. Tout ça, c'est nos parents, nos grands-parents qui les ont payés, qui les ont construits, qui les ont voulu. C'est à nous de les faire vivre aujourd'hui, quoi. Non, non, on va rien céder du tout.
Ça m'étonne pas. Hein. C'était purement rhétorique.
Et notamment.
Mais merci pour la précision.
Si je peux évoquer un sujet, donc. Qui est un petit peu un hors sujet, pardon, pardon, ouais. Pardon maîtresse.
maîtresse, c'est différent de professeur. C'est plus ambigu, c'est plus, comment dire, polysémique.
On enchaîne.
Ouais, mais j'ai un vocabulaire limité, pardon.
J'ai resté à la primaire.
Plus sérieusement, s'il vous plaît.
Tu sais encore ce que tu voulais dire ?
Oui, oui, oui.
Très bien, vas-y, t'as le droit alors.
Tu ne m'as pas troublé.
Tu ne m'as point troublé.
Ouais, pardon. Non, il y a actuellement un projet qui s'appelle le projet Eolfi, qui est mené, donc on a nous des textes et on sait que ce projet est relativement bien abouti. Ça concerne les EMR, donc les EMR, pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde sait maintenant. C'est les énergies marines renouvelables, hein, c'est les hydroliennes, les offshore, c'est les enfin bon, c'est actuellement ce projet-là, il est mené à 55% par des CNS, il est soutenu par la région. Je crois que Le Drian
n'y est
pour. On y est pour. Enfin, pour faire court, l'idée c'est que pour réaliser ce projet, ils ont besoin de la forme 3. Et la forme 3, bah, c'est ce qui nous fait vivre. C'est une forme qui permet d'accueillir tous les navires qui flottent au monde. C'est-à-dire que la forme 3, c'est vraiment une infrastructure énorme et qui a été financée comme disait tout à l'heure Patrick, par les contribuables brestois, par la Chambre de commerce et d'industrie, donc par nous. Elle est actuellement mise en péril par ces activités, cette activité qui est prévue. On a demandé, nous CGT Damen, Métallurgie plutôt, parce que j'ai pas envie de les citer, une entrevue, une réunion avec la région et avec les élus via monsieur le maire. On sait pertinemment que quelque chose se passe dans notre dos, on est inquiet, parce que si on perd cette infrastructure pour réparer des bateaux, on est vraiment, c'est la mort de la boîte, hein, ça tout le monde le sait, et la mort de la réparation navale civile à Brest.
Parce que ça peut pas se faire au fond de Parfell, en fond de Parfell.
Non, les blocs font 65 mètres par 65 mètres et pèsent 9000 tonnes.
Excuse-moi Philippe, mais l'intérêt de ton patron, c'est quand même de conserver cette forme de radou, on appelle ça.
Ouais, mais alors justement, une forme de radouf, c'est destiné à réparer un bateau, pas faire des blocs béton. C'est pas la forme de Monsieur Bouygues. Ces blocs de béton vont peut-être créer, allez, on va dire 30-40 emplois.
Mais en tout cas, pas dans la réparation navale.
Mais non, alors qu'un gros arrêt technique d'un navire qui fait son arrêt tous les 5 ans, quinquennal, on peut penser, enfin, on sait. Ça crée ou ça permet, admettons sur une période donnée, 300, 400, 500, 600 emplois, quoi.
Et au-delà de ça, si demain la forme 3 elle est occupée pour faire du BTP, s'il y a un gros bateau en avarie dans le rail d'Ouessant, enfin en tout cas au large là où il y a du danger, ça va où, quoi?
Alors, comme par hasard, ils ont demandé à vider tout l'étain du... j'ai un camarade qui bosse à des CNS, qui est échoueur. Ils ont demandé à équiper le bassin 8. Donc, et ça, c'est l'OTAN qui le demande.
Tu peux dire ce que c'est le bassin 8 ?
C'est une forme de radou également, quoi.
Mais elle est située où ?
À l'Arsenal.
Enfin, dans la Parfelle, quoi.
Dans la Parfelle, ouais.
Et elle est suffisamment grande pour accueillir le MSC, là, MCS que
non,
vous avez
non,
aujourd'hui.
Non, non, le MCS, le MSC, pardon, Luciana, en Europe, il y a guère que Rotterdam qui possède une forme telle que la nôtre et Ferrol en Espagne, c'est tout. Et Portugal, oui.
Et là, il est arrivé chez vous. Il est arrivé chez vous pour une avarie ou pour un...
Bah, une avarie parce qu'il polluait. Alors. Il pissait de l'huile par l'hélice.
Et donc, si on fait du BTP à Brest, il faut l'emmener...
Soit à Rotterdam, soit à l'ISNAV en Espagne, ou soit à Portugal.
Voilà.
Et par expérience, ils ont déjà essayé de tirer des bateaux assez loin comme ça. Bon, il y a déjà
fait
un
des
ou
traces.
Ça fait des traces, mais c'est pas ça. Il y a quand même un ou deux qui ont déjà fini dans le fond. Quoi.
Ouais.
On peut pas tirer des bateaux qui sont en perdition comme ça. Tu peux pas les tirer sur des milliers de kilomètres. Déjà, rien que de les ramener du rail de Ouessant à Brest, il faut se mettre à la place des marins qui les tirent. C'est fastidieux, quoi. Et alors, s'il faut les amener à 1000 km de là, on a toutes les chances que la catastrophe arrive, c'est clair.
Ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est qu'il y a tout intérêt à faire beaucoup de pédagogie autour de votre travail. En gros, de restaurer la transmission de votre culture pour que. Parce que potentiellement, très bientôt, ça va revenir, quoi. Il faudra se mobiliser. Autour de la question de la réparation navale à Brest, en tout cas.
Oui, le vrai souci, c'est que le mal est quand même déjà fait. Le savoir-faire est parti à volo, si je peux me permettre.
Moi, en vous écoutant, parce que du coup, vous nous apprenez des choses. Forcément, moi, je suis bibliothécaire, je ne suis pas réparateur naval, et c'est vous qui êtes les mieux placés pour en parler. Mais on est tous citoyens autour de la table. Et ce qui est intéressant aussi à défendre du point de vue politique, à mon sens, c'est comment les ouvriers, les travailleurs ont droit au chapitre sur les choix stratégiques industriels. Et c'est ça, et parce que c'est les mieux placés du point de vue humain et du point de vue de leur expérience propre pour savoir ce qui est bon pour le commun. Et le capitaliste, ce qu'on est sûr d'une chose, c'est qu'il veut surtout pas que les ouvriers et que les salariés, de manière générale, aient le droit au chapitre dans l'entreprise, et notamment sur les choix stratégiques. Alors que c'est pourtant comme ça qu'on réussirait à construire un monde un peu moins absurde et un peu meilleur et un peu moins absurde dans le sens où ça pourrait envoyer des bateaux par le fond, recréer des catastrophes écologiques comme on a vécu tellement à la pointe Bretagne. Voilà, c'est aussi cette question-là qui est une question politique centrale, c'est comment on réussit à faire en sorte d'envoyer à l'Assemblée, là c'est mal barré, des députés. Des députés qui sont. Là, je vous rappelle que le dernier député ouvrier, là il va se faire virer, c'était un communiste, Patrick Carvalho, il va être battu. Comment on envoie des gens qui savent de quoi ils parlent, c'est-à-dire du monde ouvrier, de l'industrie, mais. À la base, et comment on crée du pouvoir pour les salariés et les ouvriers dans les choix stratégiques des entreprises. Voilà.
Et bah, du coup, si vous voulez bien, tu voulais dire
j'aurais voulu rajouter un petit truc.
Alors,
si tu me permets, maîtresse.
Je te permets, mais ça fait 45 minutes là, il faut qu'on fasse une pause. Donc tu prends la parole, et puis après, si ça vous va, les gars, vous aviez autre chose à rajouter ?
Moi, je vais... Non, parce que par rapport à ce qu'il disait le camarade juste avant, là, franchement, dans les entreprises aujourd'hui, on n'est plus du tout concerté, nous, sur les choix stratégiques des entreprises. Ça, c'est clair.
Ouais.
Les choix stratégiques, on les apprend une fois qu'elles ont été décidées et actées, uniquement à ce moment-là. Et là, en fait, on vient nous dire, on ne vient pas nous demander notre avis, on vient nous consulter. C'est des avis consultatifs. Ouais. C'est-à-dire qu'on dise non, oui, c'est pareil, ils s'en foutent quoi réellement.
Mais le seul moyen, c'est
pour les politiques. Ouais, c'est vrai, c'est dommage que le dernier ouvrier parte, on va dire, entre parenthèses, de la vie politique. Je suis d'accord avec vous que ce qui se profile à l'horizon n'est pas des meilleurs augures pour nous. Hein. Mais il y a encore des espoirs, mais après c'est à nous aussi d'aller leur parler. Enfin, moi j'ai déjà commencé à faire des démarches, quoi. Les candidats qui sont en liste, entre autres, j'en ai déjà été rencontré un pour lui expliquer grosso modo un peu de quoi on parle aujourd'hui autour de la table, quoi.
Lequel?
Celui de la France Insoumise, c'est le plus accessible de toute façon.
Oui.
Mais voilà, en espérant qu'il soit élu, et puis que au moins lui, de sa jeunesse, il n'a jamais eu de mandat, il est encore vierge, il n'est pas encore abîmé, et ben qu'il puisse avoir la bonne parole et les bonnes informations tout de suite pour qu'il puisse au moins retransmettre ce qu'on a quelque chose à dire, quoi. Avant, il faut les informer avant qu'ils soient informés par quelqu'un d'autre qui n'est pas du métier, justement, quoi.
Du coup, sur la question de comment on fait fort de tous ces constats sur la transmission de la culture, on l'aborde dans la troisième partie. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose ?
Ouais, je voulais juste dire que je pense que ça dessine aussi un truc un peu plus global. Je pense que, comme vous expliquez, les Hollandais, et, disons, le transport maritime de manière générale est à la pointe du management globalisé 15.0, quoi. Et bah, ça fait un peu flipper. En fait, vous le racontez, je pense que les gens, ils ont du mal à s'imaginer ce que ça peut être. Comme ça, par exemple, je vois les bateaux avec les 5 étages où on parle 5 langues différentes. Et bah, faut se rendre compte que ça risque de devenir aussi de plus en plus commun, parce que déjà, bah, ces gens-là, concrètement, il y en a qui sont ici, par exemple, voilà, les ouvriers qui sont ici, ils sont ici, ils vivent ici, enfin, je ne sais pas combien de temps, enfin bon, ils sont vraiment déplacés, quoi. Il y a des tas de gens qui vont, il va y avoir des tas de mouvements de population, parce qu'en fait on fait un peu de la merde dans le reste du monde, hein. Je sais pas si vous vous rappelez ça aussi, mais du coup il y a des famines, des guerres, enfin tout ça, les gens ils partent, ils viennent, ils bougent là où ça va à peu près, là où ça va à peu près c'est chez nous, puisque évidemment il y a que chez nous qu'on fait pas la guerre. Et du coup, on va se retrouver avec des populations, mine de rien, assez mixées, quoi. Et il faudrait se méfier que ce truc-là soit pas aussi un présage de ce qu'on nous réserve, mais partout. Alors voilà, croyez pas que ça arrivera que dans la navigation maritime, quoi. Ça pour essayer de l'imaginer dans un immeuble administratif, dans un immeuble d'habitation à 20 étages où il y en aurait 5, on parle machin, 5 réservés à tel machin, à tel machin. Pareil dans les champs, je veux dire, ça existe déjà, hein. Il y a des grands propriétaires terriens qui font travailler un tel dans tel champ pour qu'ils se causent pas selon les mêmes mécanismes comme vous nous racontiez, hein. Mais ça pourrait vraiment se généraliser. C'est vraiment une façon de nous niquer la gueule qui est, voilà, réfléchie et donc qui sera mise en place partout où on la laisse arriver, quoi. Et la meilleure façon qu'elle n'arrive pas ailleurs, c'est déjà de s'y attaquer là où elle existe maintenant, quoi.
Cool. Merci. Du coup, on va juste... parce que là, ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait de petite pause. Avant de faire une...
C'est trop intéressant.
Ouais, non, mais en plus c'est vrai. Merci.
Merci beaucoup.
Ouais, merci.
De rien, c'est nous qui vous remercions parce que oui. Ces messages-là, on a besoin de les faire passer. Non, mais c'est important pour nous aussi. Hein. Non, là, s'il y a quelqu'un qui doit remercier, c'est nous.
Non, mais t'inquiète, on va se jeter des fleurs dans la troisième partie.
On ira aborder quoi après.
T'inquiète pas. Juste avant de faire la petite pause musicale, il y a Alan qui a écrit un texte là pendant qu'on parlait, qu'il parlait aussi, et qui va nous le lire avant la pause musicale.
Yeah.
Et avant que tu lises, juste pour dire, la pause musicale, la première, c'était du gros rap qu'envoyait du steak. La deuxième, c'est un truc de parfaite snob. Donc c'est Strandy Doors, une chanson qui s'appelle Shield, et Eric Chenot, Amazing Background. Vas-y Alan, à toi.
Merci les amis. Alors, je voudrais commencer parce qu'en fait, on m'a essayé de me forcer à parler ce soir... À cause d'une petite anecdote que j'ai racontée, j'ai fait une erreur un jour et j'ai cité un immense penseur du XXe siècle, mais en ayant oublié qui c'était. Dans une discussion sur la culture, j'ai dit, je ne sais plus qui disait ça, mais quand j'entends le mot culture, je sors mon flingue. Tout le monde s'est figé, évidemment, et m'a dit, c'est Goebbels qui l'a dit. Merde. Bon, effectivement, énorme erreur, quoi. Tant pis, c'était trop tard. Cela dit, je trouve que le mot n'est pas si stupide, quoi, parce que le terme de culture dit tout et un peu n'importe rien. Un peu n'importe quoi, pardon. Ah, n'importe rien, c'est intéressant.
Pas mal.
Et Goebbels est devenu un maître de la propagande. Aujourd'hui, la culture, c'est aussi un peu de la propagande. Je vous laisse réfléchir à la question. Pour moi, la culture, c'est une gonzesse que j'ai connue en 1942 rue de Verdun. Elle était grise et moi j'étais noir. Le mélange culturel était déjà évident. Elle vomissait du rouge et moi du blanc. Du surréalisme de trottoir, me direz-vous, mais l'art pointait déjà dans nos déjections orales. Une pointe de culture allait éclore, naître sous nos yeux de nos terreaux communs. De la littérature simple mais efficace. Elle m'a dit, tu es beau. J'avais beau avoir des doutes sur la notion de beauté, j'ai répondu « Tu es belle ». Après, on n'a plus rien dit, on a œuvré. Comme quoi, la culture, c'est peu de mots et beaucoup d'actes.
Bravo, bravo.
Super, bravo. Pause.